Robert, j'appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue à tous dans cet échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs. La maladie à virus Ebola est signalée dans la zone de santé de Mangina, au nord Kivu. Une semaine après avoir annoncé la fin de la 9e épidémie dans l'Équateur, la RDC fait à nouveau face depuis le week-end dernier à la 10e épidémie d'Ebola, affirme Dr Oli Ilunga, ministre de la Santé, dans un communiqué officiel publié le mardi dernier. Comment réagissez-vous à cette affaire? Vous pouvez participer à cette émission à l'adresse pa@radiokapi.net ou encore nous rejoindre ou nous appeler directement au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Toute équipe est là pour vous tenir compagnie. Alain Goy assure la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalambay sous la supervision de Martin Sebujangwe. Cette émission vous est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Une fois de plus, merci de rester fidèle à Radio Okapi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Docteur Njoloko Tamboué Baté, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour, docteur.
Bonjour, monsieur Gilles.
Vous êtes le directeur général à la direction de lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Nous avons été avec vous pour parler de la fin de la 9e épidémie à virus Ebola à RDC. Vous nous avez annoncé en ces temps-là que nous devions tous nous préparer pour la 10e épidémie. Alors, qu'est-ce qui expliquerait le temps court de la résurgence de cette maladie?
Ok, bonjour Monsieur Gier. Effectivement, à la dernière émission que nous avons amenée avec vous, nous avons déjà annoncé qu'il n'était pas exclu que nous connaissions une 10e épidémie. Mais celle-ci, quand même, vient avec une certaine particularité. C'est la première épidémie Ebola à l'est du pays. Toutes les 9 épidémies que le pays a connues se sont survenues à l'ouest. Et du coup, ça devient réellement un phénomène sanitaire national et de portée nationale. Alors, à dire que la durée est courte, ça ne pouvait pas se dire comme cela. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de lien ni épidémiologique ni biologique entre l'épidémie de l'Équateur et celle-ci. Encore moins celle de l'Équateur. C'est une nouvelle épidémie. Qui survient dans la zone autour de Béni, au nord Kivu. Et voilà un peu. Sinon, si on prend un terme de temps, c'est vrai que le temps est très court, mais il n'y a pas de lien entre ces deux épidémies.
Alors, parce que vous parlez qu'il n'y a pas de lien, vous pouvez-vous nous faire une idée très claire sur la différence épidémiologique ou biologique et biologique de cette 10e épidémie par rapport aux épidémies passées?
Ok. En fait, les personnes, du point de vue épidémiologique, les personnes qui sont autour du cas index que nous allons peaufiner d'ici quelques jours, c'est des personnes qui n'ont jamais été de leur vie à l'Équateur. Et, le deuxième élément, et ça c'est une partie biologique, et ça nous tenons ça du professeur Nguyembe, c'est que le séquençage, ça signifie la détermination de génétique de chaque de ces molécules de virus qui se vit ici n'a pas de lien biologique, c'est-à-dire il n'est pas proche, ils ne sont pas frères, si on peut dire comme cela. Par contre, c'est un peu plus proche de l'épidémie qui est survenue à Ikati. Et voilà tous ces deux éléments-là qui démontrent clairement que du point de vue épidémiologique, non. Mais alors, la question c'est, nous savons que c'est une maladie animale, c'est zoonose, la maladie à virus Ebola. Est-ce que les animaux se sont contaminés puisque c'est la même forêt qui quitte l'Équateur, qui passe à Mitourou, qui arrive au nord de vous? Ça paraît un mystère, on ne pourra rien vous dire à ce stade.
Oui, docteur Joloko, vous l'avez dit, l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est la toute première fois. Un des représentants de l'OMS l'a également souligné, jusqu'au point de dire que cela présente un niveau de risque de santé publique très élevé pour le pays et pour la région. Est-ce que vous partagez cet avis?
Nous partageons cet avis, bien sûr, et c'est l'avis de l'autorité du ministre de la Santé, qui, lui, est le pilote de cette réponse. Pourquoi et cela s'est démontré, d'ailleurs, du fait qu'il m'a dépêché comme directeur général de venir dans le site des opérations. Nous sommes là le lendemain de la déclaration de l'épidémie. En fait, quels sont les facteurs qui justifient cela? Le premier facteur, c'est que nous sommes en zone de grande densité humaine, l'Ituri et la province
du Nord Kivu.
Le deuxième facteur, qui n'est pas le moindre, c'est qu'ici, il y a une mobilité intense des populations. Et là, quand je vous parle, monsieur Gilles, je suis en Ituri, je suis dans le territoire de Mambasa, venant de Beni, traversant Mangina, qui est l'épicentre. Là, je suis à la frontière. Si vous entendez le bruit des motos, c'est vraiment là qu'on est en train de venir superviser le screening des passagers et tout. Et à côté de cela, nous sommes, une fois de plus, comme à l'Équateur, nous sommes non loin de la frontière avec l'Uganda. Ces trois éléments réunis constituent pour nous des facteurs majeurs qui motivent cette réponse énergique, sans oublier que la population du Nord Kivu n'avait jamais été confronté à une épidémie d'Ebola. C'est débour, nous commençons à zéro en termes de sensibilisation, en termes d'organisation des communautés.
Alors quand vous dites que vous recommencez à zéro par rapport à, pour faire face en fait, à cette nouvelle urgence humanitaire et sanitaire, ce qui veut dire qu'il va falloir mobiliser des fonds nécessaires. Et vous comptez, une fois encore, mettre à profit des partenaires traditionnels.
Ah, bien sûr, par son excellence, monsieur le ministre de la Santé, la mobilisation des moyens. Les moyens ne sont pas seulement financiers, sont entrés. Nous avons déjà les premiers résultats. En fait, le goût de nos partenaires sont ici et le goût du cadre du ministère de la Santé sont ici. Monsieur le gouverneur de la province a été ici avec le ministre. Et le ministre professeur de la Santé est permanent avec nous à Beni, au quartier général, y compris les cadres de la division provinciale de la santé. Et c'est l'ensemble de toutes ces ressources-là qui nous rassure que cette épidémie, nous allons la gérer aussi efficacement que celle de l'Équateur.
Alors donc, vous confirmez qu'à ce stade des enquêtes épidémiologiques, on peut quand même dire que cette épidémie déclarée a quelques souches du virus qu'on appelle communément Zaïr.
Affirmatif, et c'est pour cela que l'autorité devra lancer d'ici peu la vaccination ici à Mangina et qui va remonter jusqu'à Beni. Puis effectivement, la souche de cette épidémie est la même qu'on a utilisée, qu'on a connue ailleurs, c'est-à-dire à l'Ikati et à l'Équateur. Et du coup, c'est des virus qui seraient sensibles à cette vaccination et à ce vaccin.
Voilà, nous vous laissons travailler, docteur Njoloko. Merci d'avoir accepté de nous apporter quelques précisions et surtout que nous avons été avec vous lors de la fin déclarée de la 9e épidémie d'Ebola dans ces studios où vous avez annoncé que la population devait se préparer pour la 10e. Et voilà que nous y sommes. Merci beaucoup. Mais avec peut-être vous, on peut dans les jours à venir voir un peu quels sont les comportements à adopter par rapport pour faire face à cette épidémie. Merci beaucoup, docteur Joloko, d'avoir accepté d'être de notre 09 97 06 63 30 ou encore le 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Voilà, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Capi, en attendant d'accueillir notre deuxième invité, Dr Aouka Steve, qui est le chef de département de virologie à l'INRB et coordonnateur de ce programme des activités des laboratoires. On accueille les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Augustin, vous êtes en Bandaka. Bonjour, Augustin.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
Quel est votre avis par rapport à ces débats?
Oui, nous avons appris avec désolation l'information selon laquelle que la partie Est est attaquée par cette grande maladie mortelle. Et nous souhaitons toutes nos condoléances d'abord attristées aux frères et aux sœurs qui sont dans cette partie. Et mon intervention sera plus basée dans les contextes selon lesquels on doit vraiment, comment les autorités en place doivent travailler en collaboration avec la communauté internationale pour assurer une bonne sécurité dans cette partie. Nous savons même de par toutes les informations que nous avons apprises, même dans les grandes radios et dans les grandes télévisions, qu'on a déjà annoncé que la maladie, ou soit l'épidémie, est déjà dans cette partie, mais il se pose toujours un grand problème sur les contextes sécuritaires. Ici, maintenant, il se posera vraiment un grand problème, Juillet. Il faut que les autorités provinciales, les autorités nationales, la MONUSCO aussi, doivent vraiment travailler en collaboration pour assurer une bonne sécurité. Parce que vous allez vous rendre compte, même le personnel soignant qui sont dans cette partie ont super. Maintenant, même des personnes qui seront mises en quarantaine, comment on doit assurer leur sécurité? Les personnels soignants, comment on va aussi assurer leur sécurité? Ça, c'est là où se pose vraiment notre inquiétude. Parce qu'on doit vraiment, d'une manière urgente, assurer ou apporter un apport à des personnes qui sont attaquées. Mais le problème de la sécurité pose un peu problème. Et du côté aussi du ministère de la Santé, on doit aussi éviter que l'histoire fameuse qui s'est déroulée ici en Bandaka, que cette histoire ne puisse plus revenir dans cette partie Est où nous avons vu qu'il y a des personnels qui se sont donnés corps et âme pour travailler dans cette épidémie pour vraiment éradiquer cette grande maladie mortelle. Mais ces personnes sont revenues encore après pour réclamer, voilà, nous n'avons pas été rémunérés, donc nous voulons que nous mettons en cause que cette histoire ne puisse jamais se répéter dans cette partie Est où la maladie ravage tout un peuple là-bas.
Voilà, Augustin, parce que vous êtes en Bandaka, là où la 9e épidémie a été déclarée, c'est vrai, notre invité, le premier d'ailleurs, a souligné qu'effectivement, il n'y a aucun lien entre la 9e et la 10e sur le plan épidémiologique ou encore sur le plan biologique. En ce qui concerne l'épidémie qui s'est déclarée à Mangina, ça a pratiquement des ressemblances avec la souche de cette épidémie qui s'est déclarée au Katanga à l'époque qu'on a appelé communément Zaïre et qui est du reste très 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 mortel. Est-ce que vous avez aussi compati donc avec la population de l'Est, mais est-ce que vous craignez, vous redoutez comme les autres qu'effectivement que cela puisse avoir de l'ampleur, une portée nationale et également régionale, et surtout que Mangina est dans la frontière?
Effectivement, hier, même à Bandaka où je suis, ça a commencé comme ça, il y a eu des cas où il y avait seulement 9-3 personnes, et vous avez vu comment la maladie s'est propagée. Nous avons vu même à Itipo, à Ikokoipenge, où on a eu vraiment, c'était vraiment... Donc, le virus, allez-je dire, se propage toujours comme ça, Julien. Ça commence comme ça, et vous allez voir que la maladie va se propager. C'est pour cela que nous avons toujours insisté que le médecin qui est chargé pour la propagation de cette maladie, ou soit pour lutter contre cette maladie, doit vraiment approfondir des recherches qui seront vraiment, qui mettra un terme à cette maladie. Parce que tout au sommaire, tout au début, ça commence comme ça. Et vous allez voir que la maladie va se propager, et la maladie aura un grand impact, où on va perdre, il y aura un nombre impressionnant de personnes qui seront attaquées par cette maladie. D'où, nous insistons sur
les études approfondies, c'est-à-dire même l'UNERB là, doivent vraiment donner des informations qui seront précises. Ils ne doivent pas donner des informations qui seront farfelues. Donner vraiment des informations qui seront sûres et certaines, que voilà.
Voilà. Alors, Augustin, parce que vous parlez de l'UNERB, c'est vrai, nous avons le plaisir de recevoir également, d'accueillir dans cette émission, docteur Aouka, qui est le chef de département de virologie à l'UNERB. Docteur Aouka, vous êtes avec nous, bonjour. Oui, Augustin, nous vous gardons en ligne. Docteur Aouka, bonjour.
Bonjour et bonjour à tout le monde.
Alors, docteur, à ce jour, quelles sont les informations à apporter à la connaissance de la population sur cette maladie? Est-ce que cette maladie a-t-elle un lien épidémiologique avec la 9e épidémie qui s'était déclarée en Bandaka?
Les informations que nous avons et que nous avons confirmées depuis hier, c'est que les deux épidémies n'ont aucun lien. L'épidémie qui a sévi à Bikoro, dans la 9e épidémie, n'a pas de lien épidémiologique avec celle qui est en cours avec à Beni Mangina, au nord Kivu. Et voilà, ce sont deux épidémies indépendantes, bien qu'elles sont causées par le même virus que les virus Ebola Zaïre.
Alors, il y a notre auditeur, Augustin de Mbandaka, qui parle des enquêtes approfondies, parce que finalement, d'aucuns se demandent ou se posent la question, les délais courts de la résurgence de cette maladie après que l'Ebola soit déjà déclaré fini en RDC, en tout cas la 9e, et la 10e épidémie n'a pas tardé.
Et effectivement, même pour le monde scientifique, ceci est inédit. Ce qu'on observe, c'est que de plus en plus, il y a un raccourcissement des temps entre l'intervalle des temps entre les épidémies. Vous voyez, la première épidémie a commencé il y a 40 ans à Yamboko, et puis on a attendu près de 20 ans pour avoir notre épidémie à Kikwit. Et mais seulement depuis quelques années, donc depuis 2014, depuis 2012, je vais dire, à Isiro, on a pratiquement tous les deux ans une épidémie à Ebola. Et cette fois-ci, c'est vraiment inédit et je comprends parfaitement que les questions se posent dans ce sens-là. Mais cependant, ce qu'on doit retenir, c'est que le virus se trouve dans la forêt. On ne sait pas exactement quel animal qu'il héberge comme réservoir. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais ce qu'on sait, c'est que les virus se trouvent dans la forêt. Et aussi longtemps qu'on ne saura pas identifier exactement les réservoirs, aussi longtemps que on ne déterminera pas exactement avec précision où il se trouve, ces maladies vont apparaître, d'autant plus que avec les changements sociaux et environnementaux, les gens entrent de plus en plus en contact avec le monde animal, avec la forêt, soit pour les besoins alimentaires, soit pour les besoins d'exploitation forestière. Et ça augmente les contacts entre l'animal, le réservoir qu'on ne connaît pas encore, et les êtres humains.
Oui, aujourd'hui on parle de la maladie à virus Ebola, nommée Zaïre. Est-ce que c'est le même vaccin utilisé lors des épidémies précédentes?
Alors, il y a effectivement le vaccin qui a été utilisé et conçu pour protéger les personnes qui sont atteintes par les personnes pour prévenir le virus Ebola Zaïre. Donc ça correspond à la souche qui circule actuellement, qui cause la maladie à Beni.
Donc est-ce que c'est pas possible d'organiser par exemple la vaccination de manière générale?
À ce stade, non, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce vaccin est encore à titre expérimental. C'est vrai, il a été utilisé en Afrique de l'Ouest, il a donné des bons éléments, on a des bons rendements en termes de protection, mais il reste expérimental. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas l'utiliser pour une campagne des masses comme on le fait avec la rougeole, la polio,
la vaccination
totalement licencié par
l'OMS.
En fait, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la production actuelle ne permettra pas de vacciner tout le monde. C'est ainsi que, dans ces contextes, la stratégie qui est conçu et d'utiliser à titre, comme on dit, compassionnel pour en appui aux autres mesures de lutte traditionnelles qui sont autant aussi efficaces et qu'on ne doit pas négliger même lorsqu'on utilise le vaccin.
Alors, on a suivi l'actualité avec la déclaration d'un des représentants de l'OMS qui évoque au fait les risques aujourd'hui élevés à l'échelle nationale et régionale. Alors, au niveau, par exemple, des enquêtes approfondies, comment comptez-vous trouver une solution définitive pour que finalement, vous l'avez reconnu, qu'on revienne un peu aux réalités du passé ou pour qu'il y ait une résurgence, il fallait attendre un peu plus longtemps. C'est-à-dire, pourquoi pas 20 ans, 30 ans, pour que le virus puisse encore réapparaître.
Oui, alors, l'apparition d'un virus, comme on dit, émergent, émergent, c'est qu'il y a toujours une combinaison de facteurs. Et les facteurs qui sont liés au virus, comme je disais, qui se trouvent en forêt, et qui entrent en contact avec les humains, qui vont à l'hôpital, et il y a un comportement à l'hôpital en termes de manque en termes de manque d'hygiène qui fait que les virus s'amplifier dans la communauté, les rythmes mortuaires amplifient également. Donc, la solution serait de prévenir à chaque étape des systèmes de santé, en commençant par voilà les contacts, une sensibilisation au niveau des personnes qui dont le travail s'approche de la forêt ou de la viande de brousse, mais aussi de renforcer notre surveillance, notre niveau de surveillance, de manière à détecter très tôt les cas avant que ça puisse se déterminer à grande échelle. Effectivement, les risques sont là parce que l'épidémie arrive dans une des parties la plus peuplée du pays, avec des frontières extérieures, avec un mouvement du commerce et des déplacements des gens assez intense à l'intérieur du pays, différentes provinces et comme je disais, avec d'autres pays, donc ça augmente les risques de propagation. Mais cependant, les mesures qui sont actuellement mises en place avec le ministère de la Santé en appuyé par
les partenaires
et les autres agences feront, et on en est assez convaincu que pourront mettre fin à cette épidémie comme on a réussi à les contenir très rapidement.
Alors, parce que nous parlons des frontières, est-ce qu'il est pensé un cordon sanitaire en ce moment?
Effectivement, il y a tout un programme qui s'occupe de l'hygiène aux frontières et qui a identifié tous les points d'entrée et des équipes sont en train de se déployer pour contrôler les mouvements des uns et des autres à l'entrée comme à la sortie.
Alors, parce que vous avez dit à ce stade, le vaccin ne peut pas être, est encore à titre expérimental, la production actuelle ne permettra pas d'opérer une vaccination des masses. Pour vous, la solution, c'est de prévenir à chaque étape, donc il faut passer par la sensibilisation permanente et renforcer les niveaux de surveillance. Docteur Aouka, nous vous gardons encore en ligne, le temps d'écouter, on va revenir à vous, le temps de revenir à Augustin, qui parlait tout à l'heure avant que vous preniez la parole. Vous puissiez prendre la parole. Augustin, vous êtes en Bandaka. Vous avez suivi Dr Aouka? Augustin? Voilà. Demain, je crois qu'on va prendre Watson qui est à Colésie. Bonjour Watson.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre contribution?
Vraiment, cette épidémie d'Ebola, vraiment, ça me rend un peu, je ne comprends absolument rien. Je voudrais d'abord savoir, est-ce que réellement, dans le vrai fond, après des études approfondies, des experts. Cette maladie-là d'Ebola provient réellement parce que les gens mangent des animaux, des gibiers, ainsi de suite, tout ça qui se retrouve dans la forêt, ou c'est un virus qui est créé, parce qu'hier j'ai suivi, c'était le thème encore des dialogues intercongolais, j'ai suivi les journalistes qui posaient des questions pour avoir un peu des éclaircissements. J'ai vu que l'invité était en train de faire des faux fuyants. Je ne voulais pas dire, donner, ainsi de suite. Je voulais un peu avoir des éclaircissements parce que ça, je ne comprends absolument rien. Est-ce que, parce que j'avais suivi un documentaire, je crois sur des chaînes cryptées, où on parlait, qu'il y a encore une façon de créer encore d'autres armes, mais qui ne sont pas des bombes, ainsi de suite. On pouvait créer des virus, On a parlé de quelques virus qui sont sortis du côté du Brésil, plusieurs virus, même Ebola aussi, étaient aussi cités. Alors je voulais un peu avoir un peu, est-ce qu'après les études qu'ils ont pu faire, sont-ils rassurés que le virus provienne des animaux, ainsi de suite? Ça, c'était la première
question. Allez-y, Watson, on va compléter après.
Je voulais aussi soulever aussi un point aussi important. Imaginez que cette situation n'est pas réglée rapidement, le plus tôt possible. Nous sommes à quelques mois, à 4 ou 5 mois des élections. Ou soit cette même maladie arrivait à surgir ou à atteindre Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Kasai, et ainsi de suite. Nous risquons de reporter les élections parce qu'il y a Ebola, il n'y aura personne qui va aller voter, il n'y aura personne pour attendre les gens. Ainsi de suite, je pense qu'il faudra qu'on mette des stratégies rapidement avec les gens qui ont des bons cœurs de notre pays, qu'on essaie un peu d'approfondir et de fermer les portes par où est-ce que cette maladie est en train de sortir. Parce que selon ce que j'ai suivi l'invité, il dit que ce sont des souches complètement différentes, donc c'est différent avec ce qui était sorti à l'Ikassi à l'époque du Zaïre, et aussi c'est différent avec ce qui est sorti du côté des Bandaka, mais nous voulons avoir qu'on puisse nous éclairer sur les études approfondies, d'où proviennent réellement.
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne, Watson. Vous êtes à Colwezi. C'est vrai, on va revenir à notre invité, mais il est temps d'ailleurs d'accueillir Sylvain. Sylvain, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Quelle est votre contribution, Sylvain?
Bien. J'ai noté d'abord, en fait, une contradiction dans les propos du ministre de la Santé, puisque ça a été surprenant qu'ils disent que nous sommes à la fin de cette maladie, la virus Ebola et tout. Mais curieusement, quelques temps après, nous voyons sur les réseaux sociaux les messages du gouverneur Julien Paluku, mais pas le gouverneur du Nord Kivu, qui annonce la présence de la MVE, ça veut dire la maladie, un virus Ebola. Alors moi, si j'ai voulu participer à cette émission, c'est plus dans le cadre de la gestion de cette maladie. Puisque pour moi, il paraît utile de soulever maintenant la question de la gestion des structures sanitaires au Congo. Puisque, comme vous le savez, nous sommes dans un pays où pratiquement toutes les infrastructures sanitaires, et je dis même d'une manière trop générale, même scolaire et tout, sont précaires. Alors, quand vous lisez sur la gestion de cette maladie sur le plan international, vous vous rendez compte que sa gestion se fait avec une complexité sans pareil, pour plusieurs raisons. D'abord, puisque cette maladie est extrêmement grave, et beaucoup de documentation en affirme que il faut éviter les contacts directs avec des personnes qui sont touchées par cette maladie, eh bien, ceci impose un mécanisme sérieux de gouvernance de cette crise-là.
Sylvain, sans pour autant vous couper, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, quand on parle de la gestion ou la prise en charge d'Ebola, la RDC a l'expertise à la matière sur le plan international.
Nous avons suivi...
Par les enquêtes menées par l'INRB aujourd'hui.
Nous avons suivi les cas, par exemple, de l'Équateur. Ça a été une bonne chose. Mais prenons Bénin et peut-être aussi venons chez nous en Ituri. Puisque nous avons le risque que cela contamine la province de l'Ituri, puisque Manguira Bénin, ce n'est pas très loin de chez nous en Ituri. Alors moi, je vous pose une question. Dans des situations pareilles, faudra-t-il attendre que cette maladie attaque ou il faut anticiper la gouvernance ou la gestion de cette crise?
Oui, nous venons de parler tout à l'heure. Vous avez suivi, Sylvain, vous avez suivi le premier invité qui était avec nous, le docteur Njoloko, qui a annoncé d'ailleurs sa présence à Ituri. Au fait, le gouvernement travaille déjà comment mettre un cordon sanitaire et enfin de pouvoir riposter de manière un peu...
Je voudrais dire ceci, et c'est très important, je pense. C'est vrai, cette gestion technique par le secteur concerné. Mais est-ce que la population
population est sensibilisée correctement pour ne pas être en contact avec les origines de cette maladie. La manipulation, n'est-ce pas, des fruits de chasse. Puisque je dois vous dire, et ceci, je l'ai dit à l'intention de tout le monde, c'est que l'Ituri reste encore aussi un coin dans lequel la consommation des animaux de chasse est accrue. Donc, il y a des gens qui courent toujours derrière les animaux. Porteurs, bien sûr, des
oui, mais Sylvain, qu'est-ce que vous voulez en ce moment? Qu'on puisse prendre en charge les malades qui sont déjà déclarés, enregistrés, ou passer à la sensibilisation? Vous voulez quoi exactement?
Je crois que nous devons aller sur trois pistes. Je suis d'accord qu'il y ait la prise en charge. Ça, c'est tout à fait naturel, puisque c'est un problème qui était déjà là. Mais au-delà de ça, il faut...
Voilà, on s'est coupé avec Sylvain. On va prendre Jérémy qui est à Lubumbashi. Jérémy, bonjour. Allô, Jérémy? Voilà, on a des petits soucis également avec la ligne de Jérémy. Docteur Aouka, vous êtes avec nous. Docteur Aouka, bonjour. Ben voilà, on a des petits soucis également avec la ligne de Docteur Aouka. Il est temps pour nous de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qui peuvent également participer à ces débats en composant les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Et voilà, donc, et puis continuez à interagir sur notre page parce que vous êtes nombreux hein, à avoir déjà lu et commenté ce sujet.
Grande interview. L'actualité en profondeur sur Radio Okapi, c'est dans Grande interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les spécialistes et les acteurs qui font l'actualité. L'actualité évolue, et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, 13h05 et 19h35.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs qui parle de la dernière épidémie d'Ebola. Selon plusieurs spécialistes, ça présente des risques très élevés à l'échelle nationale et régionale. S'il faudrait parachever ou paraphraser, pardon, un des responsables de l'OMS qui disait, comme nous pouvons le supposer, il semblerait que les risques soient très élevés en RDC pour la région. Il est également élevé compte tenu de la proximité des frontières, en particulier de l'Ouganda. Et le virus Ebola, signalons-le, a été signalé à Mangina, un village situé à 30 kilomètres au sud-est-ouest de Beni, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Et notre premier invité l'a même mentionné qu'il s'agit bien entendu de la première fois que ce virus soit déclaré dans cette partie du pays, contrairement aux 9 premières épidémies qui se sont déclarées uniquement dans la partie ouest. Alors à ces jours, sur les 26 cas suspects identifiés, 4 personnes ont été testées positives au virus Ebola dans et autour des Mangina, et 20 autres personnes sont mortes d'ailleurs des fièvres hémorragiques non identifiées dans la région, principalement durant la seconde moitié du mois de juillet. 081 890 6330 pour votre intervention directe. La ligne de Dr Aouka s'est améliorée. Dr Aouka, vous êtes à nouveau en ligne?
Oui.
Alors, quelle est votre réaction après avoir écouté les uns et les autres?
Alors, j'ai été coupé un moment, je n'ai pas tout suivi, mais ce que je retiens, c'est qu'il y a cette inquiétude de la population en rapport avec la résurgence de la maladie du virus Ebola, ce qui est tout à fait compréhensible quand une maladie aussi grave comme Ebola revient et revient encore davantage. C'est normal qu'il y ait des inquiétudes. Cependant, comme je l'ai dit avant, le fait que nous ne maîtrisions pas jusque-là le réservoir mais pour lesquels on sait que ça se trouve en forêt, fait en sorte que voilà, ces maladies vont, cette maladie va revenir de plus en plus, d'autant plus que je disais les humains et la forêt, les contacts sont toujours de plus en plus dangereux.
Mais ce qui étonne plus d'un docteur, malgré l'expertise qu'a aujourd'hui l'INRB en la matière, comment faut-il nous préparer, disons dans une courte durée, à chaque fois que cette épidémie revienne?
Alors, il y a d'abord à préciser, il y a deux phases. Il y a d'abord cette contamination qui a lieu, l'animal, le réservoir et l'être humain. Et puis, il y a la maladie qui sévit sur un mode épidémique comme actuellement. Donc, il y a deux étapes. Alors, pour la deuxième étape, c'est-à-dire l'épidémie, comme maintenant, il y a toutes les stratégies dont a parlé Dr Batté, sont mises en place, que ça va de la surveillance, la recherche, la détection rapide des cas, les renforcements de la surveillance, la prise en charge, ainsi que la mobilisation sociale. Alors, pour la première partie, c'est la sensibilisation de la population en termes d'améliorer, de bien contrôler les contacts entre les animaux sauvages pour la plupart et les humains. Et ça, c'est un programme de prévention qui doit être mis et suivi en dehors des épidémies, et particulièrement dans les zones forestières de notre pays qui sont pour la plupart à risque. Donc, les stratégies doivent être combinées dans la prévention et dans la gestion de la prévention pour que ces épidémies n'arrivent pas, mais quand elles arrivent, qu'on puisse contrôler très rapidement, comme c'est le cas actuellement, comme les mesures sont en train de mettre en œuvre pour être contrôlées très rapidement. Donc ce sont là et la sensibilisation est très importante de la communauté, dans le sens que tout un animal trouvé mort en forêt, ou une mortalité assez suspecte des animaux, ou voilà, dans un village où on note des mortalités assez suspectes, on devrait normalement alerter rapidement les autorités pour pouvoir détecter.
Voilà, alors parlons maintenant chiffres. Quelles sont les données statistiques à ce stade, depuis que cette maladie a été déclarée à l'est de la République démocratique du Congo?
Alors, les ministères de la Santé publient chaque jour un bulletin d'information qui donne tous les détails, que ce soit en termes de cas confirmés, des cas probables et des cas suspects, les nombres de décès, les nombres de contacts et ceux qui sont suivis, et ainsi que voilà les activités qui sont menées. Et ces informations sont disponibles au niveau du ministère de la Santé qui... en assure le contrôle. Et pour le moment, on sait qu'on a une quarantaine de cas avec une mortalité assez élevée.
Quarantaine de cas.
Oui. Donc, je vous recommande de voir les chiffres très précis que publient les ministères dans son site.
Voilà. Alors, on va écouter John qui est à Demba, Marie-Paul à Kisangani. John, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Gérard Mungembo.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Voilà, vraiment, c'est horrible de voir saillir cette épidémie qui fait vraiment cette nocive épidémie et qui errait vraiment de ça et là au sol congolais. Là, monsieur Gérard, vraiment, c'est déplorable d'entendre, mais quelle est l'importance maintenant donc des cliniques et puis que les hôpitaux qui se trouvent au sein de notre pays. Maintenant, je vois que, à mon humble avis, pour bien que cette maladie ici prenne fin, il faut que les gouvernements congolais songent bien en ce qui concerne vraiment les budgets et pour les médecins ainsi que d'autres personnes qui sont vraiment engagées à lutter contre cette
maladie. Merci beaucoup alors d'avoir porté des conseils. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quel est votre avis, Marie-Paul?
Oui, monsieur le journaliste, je note que cette résurgence de l'épidémie à virus Ebola est à contraste par rapport à la déclaration faite par le ministre de la Santé publique. Et le ministre disait de manière un peu vite en besogne que non, écoutez, on a vécu cette épidémie n'est plus en RDC. c'est en contraste. Voilà pourquoi il est toujours conseillé, lorsque un pays est attaqué par une épidémie, on doit observer une certaine retenue pour essayer
Marie-Paul,
des analyses profondes.
Oui, Marie-Paul.
Et en fait,
oui, Marie-Paul.
Oui.
Ben, je crois que vous avez suivi nos invités, le premier, docteur Batté, et le second, qui est d'ailleurs le principal, qui continue cette émission, docteur Aouka. Aujourd'hui, cette épidémie, la toute dernière, n'a aucun lien épidémiologique ou biologique avec les neuf, l'épidémie déclarée à la neuvième, en Bandaka.
En fait, le problème, ce n'est pas à ce niveau. Vous savez, lorsque un pays est attaqué par une épidémie quelconque, il y a bien entendu des faits collatéraux qui viennent par rapport à cette épidémie. Je crois que même si les indices ne sont pas les mêmes, néanmoins, il y a quand même des liens de cause par rapport à ce que nous connaissons, virus Ebola. Et les faits sont bien déclarés. Alors, moi, je suis en train de tirer un peu la sonnette d'alarme en ce qui concerne la proximité de là où l'épidémie est déclarée, par rapport à la province de la Tchopo. Alors, vous voyez, il y a la proximité jour et nuit, les gens sont en train de traverser. Et aussi le fait que dans nos services, les agents qui travaillent dans des limites des provinces n'ont pas de matériel bien indiqué pour identifier ces gens de maladies ou les gens qui sont déjà affectés par cette maladie, en fait de les empêcher d'aller dans d'autres provinces qui sont encore indemnes. Alors voilà pourquoi là où mon inquiétude réside, en fait, que parce que cette maladie est déjà à proximité de la province de la Top, j'interpelle la conscience des dirigeants de pouvoir dorénavant de mettre des dispositifs en marche pour essayer d'endiguer cette maladie de cette province, en fait que la maladie ne puisse pas prendre de l'envol vers la province de la Chouan, parce qu'il y a une proximité. Il y a toujours
Marie-Paul.
Marie-Paul. De l'entrée des sorties.
Oui. Marie-Paul, quand vous parlez de la Chopo, il n'y a pas que la Chopo qui est en danger. Bon nombre d'observateurs et surtout certains responsables de l'Organisation mondiale de la santé évoquent que la dernière épidémie, donc d'Ebola, présente des risques très élevés à l'échelle nationale et régionale. Donc vous n'avez pas à craindre, mais la question, comme vous l'avez dit, c'est plutôt renforcer les cordons sanitaires et les contrôles de flux migratoires afin d'éviter une large propagation.
Oui, c'est justement. Bon, si je l'ai dit, je ne dis pas que je suis en train de minimiser pour les autres risques des provinces, mais la proximité de là où la maladie est déclarée par rapport à cette province, je crois qu'il y a lieu des gens de pouvoir endiguer, de pouvoir prendre des dispositions. Et surtout les gens qui travaillent, parce que lorsque vous allez dans des services qui travaillent dans des limites des provinces, vous allez voir que ces gens-là ne sont que pour percevoir de l'argent, au lieu de tenir aussi compte de tous ces aspects. Voilà, il y a lieu de renforcer ces services par des matériaux spéciaux pour pouvoir détecter ces gens de maladie puis endiguer dès maintenant. Parce que si on ne le fait pas à tout cas, nous risquerons d'avoir une situation intenable au point que le gouvernement sera débordé par des cas et on va laisser périr la population qui est déjà en détresse. Voilà, ces mouvements se sont déjà ressentis ici. Les gens ont presque la méfiance parce que nous savons dans des épidémies dans notre pays, il y a toujours une intervention retardée des gouvernants. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller les conseils dès maintenant, de prendre des dispositions indouanes pour éviter que la propagation soit aussi rapide, atteigne toutes les provinces, ce qui sera un danger public international.
Voilà, merci beaucoup Marie-Paul, vous souhaitez qu'on puisse éviter les désastres dans cette épidémie. Nous revenons à vous, docteur Aouka, comment se présente aujourd'hui la prise en charge sur le terrain? Est-ce que c'est les équipes de l'INRB sont déployées sur place ou peut-être les enquêtes sont menées de manière approfondie ici à Kinshasa à chaque fois qu'il y a des cas suspects?
Oui, alors dans que ce soit à Kinshasa ou dans toutes les provinces frontalières au nord Kivu, dont je vois l'Ituri, il y a la Tchopo et plus en bas les autres provinces, il y a une veille sanitaire, il y a un renforcement de la surveillance et toutes les personnes en provenance ou présentant des symptômes évocateurs à Ebola sont rapidement détectés, prélevés et on nous envoie l'échantillon pour confirmer ou infirmer. Mmh. Donc c'est ça la stratégie. Et au niveau même des Beni ou Mangina, il y a toute une commission qui s'occupe de la prise en charge. Et cette commission dépend du programme des urgences. Et c'est avec les partenaires qui nous appuient, notamment MSF et Alima, ils organisent la prise en charge clinique des patients. Mmh. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, les patients qui sont atteints vont bénéficier des quelques molécules qui ont prouvé leur efficacité en Afrique de l'Ouest et qui seront utilisées pour essayer de réduire la mortalité de cette maladie. Mmh. Et il y a 4 molécules qui sont déjà sur le terrain. Et dans les heures qui vont suivre, sûrement seront administrés aux patients qui sont hospitalisés.
Oui, mais la crainte aussi, c'est entre Manguina et Kinshasa, la distance, elle est très, très, très grande. Quand il faut attendre que les résultats soient confirmés, et entre-temps, sur place, la prise en charge.
Ah non, non, non.
On ça, anticipe.
J'ai loupé un détail. Mm-hmm. Dès les 2 août, c'est-à-dire le lendemain de la déclaration de l'épidémie, l'INRB a déployé un laboratoire à Beni. Et c'est ce laboratoire qui assure le diagnostic de tous les cas suspects.
Sur place à Beni.
Sur place à Beni. Et même les alertes des Goma et des alentours sont ramenées pour le moment. Et à partir d'aujourd'hui, un autre laboratoire va arriver à Manguina même et un autre sera basé à Goma. Donc, pour pouvoir effectivement soutenir toutes les activités de surveillance et de prise en charge. Donc, à ce niveau de diagnostic, on n'a vraiment pas de problèmes. Et pour chaque suspect, dans les 4 heures, nous sommes à même de dire que si la personne est réellement infectée ou s'il ne l'est pas.
Mmh. Voilà, alors docteur, nous vous gardons encore en ligne, il est temps d'écouter quelques auditeurs. Il y a Faustin qui est à Kalima. Faustin, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, la radio Capi, bonjour aussi à l'invité. Je suis Barouani alias Faustin, Mounia Moukouna Milemba, journaliste de la radio RTK Kalima.
Vous avez la parole, Faustin.
Oui, j'ai une question à poser à l'invité. De manière à ce qu'il y ait savoir, parce que c'est le cas que nous avons ici chez nous, à Kalima. Et c'est pourquoi j'ai une question à poser à l'invité.
Mais alors, vous, en tant que journaliste, quel est le regard d'abord vous avez de cette situation? Allô? Allô, Faustin? Voilà, Faustin n'est plus en ligne, 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention en direct. Notez que vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Radio Capi donne la parole aux enfants sans exclure les adultes. Les vendredis à partir de 14h05, rediffusion dimanche à 12h30 et 19h35. Les enfants et les adultes débattent sur un sujet qui les concerne.
Alors, on accueille également Roland qui est à Lubumbashi. Roland, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Oui, bonjour JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre réaction?
Ah.
Allô, Roland? Voilà, décidément, on a des petits soucis avec les lignes téléphoniques. Roland va revenir. Et puis, bon, docteur Aouka, vous êtes encore avec nous en ligne.
Oui, je suis là.
Voilà. Donc, vous avez dit qu'il y a une nouveauté, une très bonne nouvelle par rapport à ceux qui seront touchés par la maladie. Il y a des molécules de plus qu'on va administrer dans le cadre de la prise en charge.
Exactement, oui.
Ouais. Alors, en ce moment, docteur Mouyembe se trouve sur place, à Beni.
Oui, oui. Exactement, il se trouve depuis hier à Beni. Et une de ses missions, c'est de pouvoir rassurer la population que toutes les énergies et les compétences sont mises en place pour pouvoir juguler cette dizaine d'épidémies et avec, comme vous dites, avec les personnels, les ressources humaines que nous avons en RDC et surtout avec l'implication du gouvernement et surtout l'appui des partenaires, nous pensons que bien que c'est une épidémie assez grave, avec beaucoup de risques des propagations au-delà des foyers initiaux, nous pensons que nous arriverons à la contenir très rapidement.
Voilà, quand vous avez parlé de la production actuelle qui ne permettra pas la vaccination de masse, est-ce que c'est un problème des moyens?
Oui, aussi des moyens, mais aussi un problème technique, parce que la production des vaccins, surtout les genres de vaccins d'Ebola, nécessite beaucoup de temps et la quantité, parce qu'il y a toute une procédure qui prend du temps, il y a un contrôle des qualités et puis il y a l'expédition. Et ces vaccins également a une contrainte, c'est qu'elles nécessitent une chaîne de froid assez particulière. Il faut déplacer les vaccins à des températures très très basses et ça nécessite une technologie assez aussi nouvelle que voilà qu'il faut acquérir. Et tout ça, ça fait que le temps des productions et des livraisons peut parfois aller au-delà même de la durée de nos épidémies qui souvent, lorsque nous les contrôlons en 3-4 mois.
Alors, si vous le permettez, avant de conclure cette émission, on va réécouter Roland. Je crois que la ligne s'est améliorée. Roland, vous êtes avec nous? Roland?
Oui, je disais bonjour à vous et à notre invité.
Ben, allez-y, rapidement.
Bonjour. Oui, évidemment. Je disais que vous voyez aujourd'hui, hein, notre invité, je l'ai religieusement bien entendu à ces derniers mots, quand il parle de problème de moyens et aussi de problème dû aux techniques. Donc ce qui veut dire directement les États-Unis, et le retrait des offres de la Belgique et autres choses liées à la RDC. Voilà les conséquences que nous subissons maintenant. Problématique. Mais JR, il y a des questions que je me pose. Pourquoi à le temps où l'ancien ministre Kabang Enoli était en fonction, nous avons été même plébiscités, nous avons été même parfois sollicités dans d'autres pays pour notre expérience. La question que je me pose, est-ce que cette équipe-là qui avait lutté avec Ebola la fois dernière n'est plus? Ou bien c'est toujours la même équipe? Si c'est vraiment la même équipe, ou également c'est le problème des moyens tels que l'invité le parle, ou évidemment c'est qu'il y a quelque chose qui y est d'une manière politique qui est créée. Voilà, il y a toujours les mêmes coins. C'est ça. Quand on gère des gens, il y a aussi des préventions. Quelle est aujourd'hui la mesure préventive que le gouvernement ou soit l'équipe qui est sur le terrain ont eu à prendre de sorte que, comme l'épidémie qui était surgie, qu'il n'y ait pas également la dixième? Qu'est-ce qui ne va pas?
Voilà, merci beaucoup Roland. Alors on va conclure. Voilà. Alors qu'est-ce qui ne va pas, docteur Aouka? Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Oui, en conclusion, c'est qu'on peut... D'abord, je reviens, c'est que pour la vaccination, la première contrainte, c'est que c'est une vaccination expérimentale. C'est ça la première contrainte. Mmh. Les vaccins sont encore en cours d'expérimentation et nous l'utilisons à titre compassionnel pour les gens qui sont à risque. Et parmi ces gens, ce sont les personnels de santé des premières lignes, comme on l'a dit, ceux qui sont directement en contact avec les suspects et les confirmés. Il y a les personnes qui étaient en contact avec les cas confirmés ou probables. Et puis enfin, il y a les contacts, ces contacts. C'est ces personnes-là qui sont à risque et c'est à ces gens que nous, que la stratégie dédie les vaccins afin de couper la chaîne de transmission et de contenir l'épidémie. Mmh. Donc c'est ça la principale raison. Les autres aspects dont j'ai parlé, c'est juste, ça vient en appui, mais c'est ça la principale raison qui fait qu'on ne peut pas utiliser ces vaccins pour des raisons comme en campagne de masse. Mmh. Alors, c'est vrai, c'est la même équipe.
En conclusion?
C'est la même équipe qui intervient et les défis sont autres et nous pensons que avec tout le soutien de tout le monde, on arrivera et on demande la coopération et la participation de la population. Sans elle, aucune épidémie ne peut être maîtrisée.
Docteur Aouka, Steve, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le chef des départements des virologies à l'INRB et coordonnateur de programmes d'activité des laboratoires, toujours dans cette même institution. Merci beaucoup, Docteur Aouka. Nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à Hérité Sidiakala qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalambay sous la supervision de Martin Sebujangwe. Nous avons eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission. Nous, c'est J.R. Lungembo, Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.